Madame, Monsieur, bonsoir.
Jusqu'alors, nous avions essayé de ne pas trop montrer notre inquiétude à propos du sort d'Alain Colas.
Le radar a été perdu vers 19h à la hauteur du Mont Saint-Odile, près de Strasbourg. Et sur le mur, écrit avec des lettres de sang, Romard, le nom du jardinier.
Il est certain que ce jugement est à l'image même du désarroi des juges devant cette loi sur l'avortement.
Fait d'hier.
Je voudrais que vous puissiez penser une minute seulement que je suis innocente. Oui, je suis innocente.
Chaque mois, Femme Actuelle Senior vous replonge dans une affaire qui a défrayé la chronique. Revivez les événements comme si vous y étiez et découvrez le fin mot de l'histoire. Dans cet épisode, L'honneur perdu de Marie Bénard. En ce soir étouffant du 21 juillet 1949, Marie-Joséphine Philippine Davaillot, 52 ans, veuve Bénard, cultivatrice à Loudun, est une femme désemparée. Les larmes coulent en silence sur ses joues. Elle vient d'être déférée après un interrogatoire éprouvant et une comparution devant le juge d'instruction, M. Roger. Elle a subi l'épreuve de la fouille au corps et les mains intrusives. Son soutien-gorge a été remisé dans une mauvaise boîte en carton. Et ses affaires personnelles, papiers d'identité, argent, alliance et petites croix en or, ont été déposées au greffe. Dans quelques instants, elle va découvrir son nouveau cadre de vie pour les 5 années à venir. Une cellule avec fenêtres grillagées, lit de fer, paillasse, évier, une table et une chaise. C'est la fin d'une journée d'humiliation et le début d'un long chemin de croix dont personne, et surtout pas elle, ne sait qu'il va durer plus de 12 ans. Ce qu'on appellera l'affaire Marie Bénard, et qui deviendra l'un des feuilletons judiciaires les plus retentissants d'après-guerre, est partie d'une banale assiette de soupe. Une simple écuelle de bouillon, qui vaudra à cette femme jusque-là sans problème 3 procès d'assises, des années de prison et une réputation d'empoisonneuse jamais démentie. Mais revenons aux prémices de cette incroyable histoire. Tout commence à l'automne 1947. Marie et son époux, Léon Bénard, viennent de passer 8 jours au Libourreau, dans la ferme où Marie a grandi. À la fin de leur séjour, le 16 octobre, Marie invite un ami d'enfance à déjeuner. Pour ne pas perdre trop de temps en cuisine, elle sert les restes. Léon se sent mal dès la fin du repas. Et quand il sort dans la cour pour gonfler les pneus de la voiture, il vomit. Marie s'inquiète. C'est le déjeuner qui n'est pas passé ? Léon la rassure, c'est juste un petit coup de fatigue. Puis, ils montent dans la vieille Fiat pour retourner chez eux, à Loudun. Mais arrivé à destination, 80 km plus tard, ça ne va pas mieux. Léon se couche. Il est exténué. Il ne se relèvera jamais. Le 25 octobre 1947, après 10 jours d'agonie, il rend son dernier souffle. D'après les premières constatations, c'est une maladie des reins, l'urémie, qui l'a emporté à 53 ans. Marie se retrouve veuve pour la seconde fois, après 19 ans d'un mariage heureux. Au cimetière, elle s'effondre. Que va-t-elle devenir ? Elle va le découvrir très vite. Car la terre de la sépulture n'est pas encore sèche, que les on-dit commencent à circuler. La Bénard aurait empoisonné son mari. Il y avait de l'arsenic dans la soupe.
Tout paraissait pourtant bien calme dans le petit cimetière de Loudun. Calme depuis des siècles, calme pour l'éternité. Et pourtant, il a suffi d'un seul jour, un seul jour où quelqu'un a prononcé un seul nom, pour que tout soit bouleversé.
Comme souvent dans les petites villes où tout le monde se connaît, la situation confortable des Bénard et la succession d'héritages dont ils ont bénéficié font des envieux. Ils ont la réputation de vivre bien, de recevoir souvent et d'aimer la bonne chère. Les médisances vont bon train et des lettres anonymes circulent. La funeste période de l'occupation n'est pas loin. On raconte que Marie entretiendrait une relation coupable avec le Baladi, son tâcheron allemand de 24 ans qui travaille dans la ferme familiale. Et puis, les Bénard formeraient un ménage à trois avec Louise Pintou, la postière, une amie de Marie devenue la maîtresse de Léon. On se gausse aussi de l'ablation des ovaires que Marie a dû subir en 1942. La totale, comme on l'appelle à l'époque. Cette fille unique d'agriculteur a grandi au Libourou, à une cinquantaine de kilomètres de Poitiers. Ses parents ont une exploitation d'une trentaine d'hectares. Marie n'a pas ménagé sa peine pour les seconder. À 24 ans, elle épouse Auguste Antigny, son grand amour, son ange adoré. Mais en 1927, après seulement 7 années de bonheur, Auguste succombe à une pleurésie. 2 ans plus tard, Marie convole avec Léon. Elle s'installe à Loudun pour s'occuper avec lui de la corderie familiale des Bénard. La vie s'écoule, avec son lot de joie et de malheur. Le 14 mai 1940, le père de Marie meurt. Elle recueille alors sa mère chez elle. La ferme familiale est mise en viager au nom de Marie. En paysanne aguerrie, elle veille de près sur les moissons, les vendanges, le bétail des Libouraux. Léon est des commis agricoles l'aident. À partir de mai 1947, Alfred Dietz, un jeune prisonnier allemand vite surnommé Adi, est mis à la disposition des Bénard par l'administration. Il vient en renfort car le travail ne manque pas. Il faut dire qu'en plus de la corderie et de l'exploitation agricole, le couple gère l'hôtel du Cheval Blanc, les chevaux de Léon et plusieurs maisons de la petite cité médiévale de Loudun. Bref, une vie bien remplie. Et pourtant, il leur reste encore un peu de temps pour s'occuper des autres. Les occasions ne vont d'ailleurs pas manquer. Après la mort de leur ami Toussaint Rivet, ils prennent soin de sa veuve, Blanche, qui décède d'une tuberculose 18 mois plus tard, à l'âge de 60 ans. Elle leur lègue sa demeure. Avec le même dévouement, ils aident 2 vieilles cousines octogénaires, Pauline et Virginie Lalleron, qui rendent l'âme en 1945 à 8 jours d'intervalle. Elles aussi leur transmettent tous leurs biens. Puis, ils héritent des parents Bénard, de la grand-mère de Léon et de sa sœur Lucie, qui s'est suicidée. On meurt beaucoup dans l'entourage des Bénard, et cela les enrichit. De quoi alimenter les suspicions. C'est une lettre anonyme qui va alerter la police. On y affirme que Marie Bénard aurait servi à son mari une soupe à l'arsenic et que c'est ça qui l'aurait tué. D'où le corbeau tire-t-il ces informations? De Louise Pintou, la maîtresse de Léon. Son amant lui aurait parlé juste avant de mourir. Quelques jours après les obsèques, cette femme, dont le nom revient souvent dans le dossier, s'est confiée à un ami, Auguste Massip, un excentrique, habitué des délations en tout genre. Et sur la foi de ses confidences, c'est lui qui va écrire le fameux courrier accusateur au procureur de la République. Massip ne s'est pas contenté de l'accuser d'avoir glissé de l'arsenic dans le potage de Léon. Il a dressé une liste de 12 autres noms, y compris celui de la propre mère de Marie, morte de la grippe le 16 janvier 1949. Toutes ces incriminations intriguent M. Normand, le jeune inspecteur venu de Poitiers pour enquêter. Et si cette affaire d'empoisonnement était vraie? Et si c'était là le fait divers qui allait lancer sa carrière? Le policier fait ordonner par le juge Roger l'exhumation de Léon Bénard. Le 11 mai 1949, sous un soleil de plomb et dans d'atroces odeurs de putréfaction, Marie Bénard assiste au terrible spectacle. On prélève sur la dépouille 11 bocaux de viscères, que l'on envoie à Marseille, au laboratoire de criminologie du docteur Béroux, une sommité dans le monde de l'expertise judiciaire. C'est son rapport qui va mener à l'interpellation et à la détention de Marie. Ce 21 juillet 1949, 18 mois ont passé depuis le déjeuner au Libourou. Dans un petit bureau poussiéreux de la police judiciaire de Poitiers, l'audition est brutale. La bonne dame de Loudun a beau se défendre, invoquer une erreur, demander une contre-expertise psychologique, rien n'y fait. Le commissaire Noquet, l'inspecteur Normand et même leur chauffeur, qui crie aussi fort qu'eux, tentent de la faire craquer. Mais Marie garde son calme. Non, elle n'a pas tué son mari, comme elle le clamera haut et fort le restant de sa vie, ni empoisonné 12 autres personnes comme on le prétend. Mais peu importe ce qu'elle dit, la justice suit son cours. Marie est conduite à la prison de la Pierre-Levée. Pendant l'été 1949, les experts procèdent à 12 autres exhumations. Sous la surveillance des fossoyeurs, ils prélèvent des échantillons de cheveux, de foie, de peau et de parties intimes des parents et des amis de Marie. On consigne tout ça dans des bocaux en verre, comme on le ferait avec des petits pois. On les scelle et on les expédie au docteur Béroux, le directeur du laboratoire de criminologie de Marseille. Quand il rend ses conclusions, ce grand spécialiste est formel. Oui, on a bien découvert de l'arsenic dans les corps de ces 12 personnes. Commence alors pour Marie, dans l'attente de son procès, une longue période de désespoir derrière les barreaux. Ses deux défenseurs, Maître Ducluzot, avocat à Poitiers, et Maître Ayot, du barreau de Paris, ont beau la soutenir comme ils peuvent, elle sombre dans une profonde dépression. Lorsque des co-détenus lui promettent de l'aider, elle veut y croire. Ces femmes connaissent des gangsters marseillais qui pourraient la faire évader, à condition que Marie écrive une lettre en leur expliquant son crime. En réalité, ces prisonnières sont des moutons à la solde du commissaire Noquet, qui cherche à tout prix à la faire avouer. L'acharnement des policiers n'a aucune limite. Leurs indiscrétions font les gros titres des journaux. Et l'opinion publique se déchaîne contre la brinvillier de Loudun. Dans l'ombre, ses avocats travaillent sans relâche. Ils réclament une contre-expertise qui leur est refusée. Ils décident alors de faire appel à des chimistes et à des pharmacologues. Marie subit des tests psychologiques à Paris. Les psychiatres la déclarent anormalement normale. Maître Albert Gautra, du Conseil de l'Ordre, se joint à sa défense.
Marie Bénard, ayant connu ma décision, m'a écrit une très longue lettre dans laquelle elle me suppliait d'accepter sa défense. Et elle a eu cette phrase magnifique, « Puisque vous avez refusé mon dossier, c'est donc que vous me croyez coupable. Et si vous me croyez coupable, c'est que vous n'avez pas étudié mon dossier. » Marie voilà. Bénard avait raison.
Enfin, la date du procès est fixée. Ce sera le 20 février 1952.
Au palais de justice de Poitiers, les assises de la Vienne se sont ouvertes sur le procès de Marie Bénard, celle que les rumeurs nomment l'empoisonneuse de Loudun. C'est de Loudun que partit en effet l'accusation qui la rend responsable de 12 empoisonnements échelonnés sur 20 ans.
En cette journée hivernale, Marie Bénard fait son entrée devant les jurés et la cour d'assises de la Vienne à Poitiers, dans les crépitements des flashs et les cris d'une foule haineuse. Avec son corsage blanc fraîchement repassé, son manteau sombre, ses grosses lunettes d'écaille et sa mantille, l'accusée a l'air d'une domestique endimanchée. Son allure sévère déchaîne les commentaires, sa mantille de Duane surtout. Aucune photo d'elle ne sortira plus désormais dans la presse sans cette voilette noire. Et ce qui frappe aussi les journalistes, c'est sa voix, son timbre flué de petite fille perdue.
Je voudrais que vous puissiez penser... Une minute seulement que je suis innocente. Oui, je suis innocente. Représentez-vous ce qu'a été ma vie pendant toutes ces longues années et ce qu'elle est encore. Ici, j'étais heureuse, très heureuse. J'ai vécu avec des gens que j'aimais, un mari que j'adorais. Je l'adore encore, puisque dans mes moments douloureux, c'est toujours vers ceux que j'ai aimés que je tourne mes dernières pensées.
La lecture de l'acte d'accusation est interminable. Et pendant toute sa durée, Marie reste debout. 13 cadavres ont été exhumés. Tous ont révélé des taux d'arsenic au-dessus de la normale. Le cas d'Auguste Antigny, le premier époux de Marie, dont le décès remonte à plus de 20 ans, n'a pas été retenu. Il y a prescription. Mais mis à part les analyses toxicologiques et le défilé des dénonciateurs, le dossier est pratiquement vide. Les avocats de la défense, Maître Ayot et Gautra, interrogent le docteur Béroux sans complaisance. C'est lui qui a procédé aux analyses. Sait-il que certains des bocaux de viscères qui lui sont parvenus ont été mélangés? Sait-il que certains ne lui sont jamais arrivés? Avec superbe, l'expert réfute tous les arguments. Il vante l'infaillibilité de la méthode de Marsh, qui permet de déceler le poison dans des matières organiques quand on les mélange à de l'hydrogène et à de l'acide sulfurique. Mais il s'embrouille dans les résultats. Albert Gautra, le ténor du barreau qui a plus d'un tour dans sa manche, en profite. Il exhibe 6 tubes à essai et somme le médecin, qui prétend être capable de déceler l'arsenic à l'œil nu, de se prononcer. Le criminologue en désigne plusieurs.
L'expert Béroux avait écrit 4 lettres au juge d'instruction, dans lesquelles il déclarait qu'il lui était tout à fait inutile de faire une analyse de l'anneau de Marsh, étant capable à l'œil nu de distinguer l'anneau d'arsenic de l'anneau d'antimoine. Je lui ai demandé à l'audience s'il confirmait ces lettres. Il les a confirmées. Je lui ai présenté 6 tubes, lui demandant de dire quels étaient ceux qui contenaient de l'antimoine ou de l'arsenic. Il m'a désigné 3 tubes contenant de l'arsenic. J'avais la preuve dans mon dossier qu'il se trompait, puisque aucun de ces tubes ne contenait de l'arsenic.
Coup de théâtre. Docteur Béroux, vous êtes jugé, lui lance Maître Gautra. Le médecin blêmit. Sa renommée s'effondre, sa carrière est brisée. La cour interrompt le procès et ordonne enfin une contre-expertise. Si les avocats ont gagné la première manche, ils sont loin d'avoir remporté la partie. Mais dans l'opinion publique, le doute s'est installé. Marie Bénard n'est peut-être pas celle que l'on croit. Dans l'immédiat, elle doit pourtant retourner en prison. Ce rebondissement est une nouvelle épreuve pour elle. Car qui dit contre-expertise dit profanation des tombes de ses chers disparus, comme elle les appelle. Il faut réaliser d'autres prélèvements, recommencer des analyses. Mais ces investigations vont donner un autre cours à cette affaire et ouvrir la voie à une autre théorie. On découvre ainsi qu'un jardinier de Loudun désherbait le cimetière avec une solution contenant de l'arsenic. Le ruissellement des eaux de pluie pourrait avoir infiltré les cercueils et contaminé les cadavres. Un deuxième procès est prévu du 15 mars au 1er avril 1954 à Bordeaux, où Marie est désormais incarcérée. Elle se présente devant la cour amaigrie et vieillie. Le public et la presse mondiale sont au rendez-vous. Sa mantille noire a été remplacée par une voilette. Elle doit à nouveau écouter, debout, l'interminable acte d'accusation. Cette fois, la justice n'a retenu que 6 morts suspectes. Son père, sa mère, son mari, son beau-père, sa cousine, Pauline Lalleron, et son amie, Blanche Rivet. Pour les autres, les faits sont prescrits. On a retrouvé trop peu d'arsenic dans les corps. Comme lors du précédent procès, sa vie privée est étalée. La question de la fameuse soupe empoisonnée revient sur la table. Mais cette fois, Louise Pinto, la principale accusatrice, n'est plus aussi sûre d'elle-même. Et Auguste Massip est perçu tel qu'il est, un fantaisiste. Les savants s'affrontent. Le procès est suspendu pour complément d'information. Marie peut bénéficier d'une liberté provisoire, à condition de payer une caution astronomique hors de ses moyens, plus d'un million de francs. Une somme que le chanteur Charles Trenet se propose de régler. Les 3 avocats de la Défense, dont Maître Jacqueline Favreau-Colombier, qui l'assiste fidèlement depuis 1953, trouve finalement un arrangement. Marie rentre définitivement chez elle le 12 mai 1954, dans une maison qui a été pillée par le voisinage. Dans le quartier, l'accueil est hostile. Regard de travers, colibés, ragots.
Je savais que je devais voir ma triste maison, qui a été négligée pendant ces 5 années, dans laquelle je ne pouvais à peine pénétrer par les toiles d'araignée.
Mais on a dit par exemple que la population avait l'intention de sonner le tocsin. Pour le cas où vous viendriez, c'était les pompiers qui en avaient empêché. Est-ce que c'est exact?
Monsieur, ça je n'en sais rien, mais il y a partout des petits esprits.
Et quelle était l'attitude de la population quand vous êtes revenu?
On me regardait comme une bête curieuse.
Marie fait face. Elle veut croire en la vie, se consacre à la rédaction de ses mémoires. Et elle attend un autre procès. Celui qui prouvera son innocence.
Non, j'ai toujours eu confiance. parce que je n'avais rien fait. Alors je me disais toujours, pourquoi voudrait-on me condamner? Moi, je n'ai rien fait. C'est ce qui m'a tenu. C'est la seule chose qui m'a tenu pendant 14 ans.
7 ans après sa sortie de prison, cet ultime rendez-vous avec la justice arrive enfin. Marie a des problèmes cardiaques. La veille du procès, le 20 novembre 1961, elle est admise à l'hôpital Pellegrin, dans la prison de Bordeaux. Le 22, elle s'évanouit pendant l'audience. Cette dernière épreuve est émaillée de nouvelles expertises contradictoires, pas toujours en sa faveur, de l'éternel défilé des langues fourchues et de la mise en cause de la police pour une enquête à charge.
Avec une ironie vraiment féroce, Maître Favreau-Colombier met à nu les âmes et les consciences des principaux accusateurs de Marie Bénard. Personne ne s'est jamais demandé, dit-elle, entre autres choses, de quoi étaient morts le mari, la sœur et le gendre de Madame Pintou. Mais à la fin, prise par l'émotion, Maître Favreau-Colombier, qui se bat depuis 10 ans pour Marie Bénard, éclate. Après 5 ans de prison préventive, remise en liberté pendant 7 ans, cette femme est venue volontairement devant vous. Personne ne l'attend, ni mère, ni mari, ni enfant. Elle ne vit que pour obtenir justice. En larmes, Maître Favreau-Colombier se tourne vers Marie Bénard, qui, elle, est secouée aussi de sanglots. Ayez confiance, Marie, ces braves gens ont compris.
En l'absence de certitude et de preuves irréfutables, le doute profite à l'accusé. Et le 13 décembre 1961, les journaux étalant une, Marie Bénard acquittée. Acquittée, mais pas innocentée. Marie a gagné sa liberté, mais elle a perdu à tout jamais son honneur. Innocente, voilà le mot que la bonne dame de Loudun espérait et attendra en vain. Ses désillusions ne s'arrêtent pas là. Elle ne touche pas la moindre indemnisation pour ses années de prison, sa vie ruinée, ses biens disparus. Mais la paysanne têtue ne baissera pas les bras. Elle s'efforcera de mener une vie anormalement normale jusqu'à sa mort en 1980 d'un cancer des os, à l'âge de 83 ans, le jour de la Saint-Valentin. Ce texte, écrit par Isabelle Spack et adapté par Bénédicte Aubry et Elsa Delavergne, a été enregistré par Anne-Vincent Signy, mixage de Lucas Vibault.